gardez les yeux ouverts, MDM s'occupe de vos oreilles.
Vraiment bien aimé qu'on se la fasse en karaoké, c'est oui ou non, parce que j'ai vraiment trouvé que votre adaptation à la sauce sage-femme était super. Marine, François, Sophie, Aurélie, une cinquième invitée nous a fait l'honneur de répondre présente pour ce troisième numéro de Margot Guette consacré à la maternité. Il s'agit de la réalisatrice Aude Pépin, à qui on doit le documentaire À la vie. Elle y suit la sage-femme des banlieues, c'est son petit nom dans le milieu, Chantal Birman. Militante magnifique, elle a porté haut la cause des sages-femmes et après 49 années passées à exercer, elle continue à suivre les évolutions ou non-évolutions de près. Je vous propose d'écouter les premières minutes de l'interview et on discute ensemble juste après.
Bonjour Aude Pépin.
Bonjour.
Merci beaucoup de prendre un peu de temps pour nous pendant vos vacances. Ce film, il a l'air de prendre quand même pas mal de place dans votre vie. Est-ce que vous pouvez nous en parler de l'impact que ça a eu à la vie sur vous et sur votre vie de femme en dehors de la réalisation, je veux dire?
Ouais, c'est vrai que je n'aurais pas pensé que ça serait aussi... en fait, grosso modo, on a commencé le festival de l'USAS, donc vraiment ce festival de documentaire a été le point de départ de la tournée avec À la vie. Et grosso modo, on a eu un autre festival qui s'appelait le We Too Festival à Paris, qui était tout début septembre. Et à partir de mi-septembre, en fait, on a commencé à tourner. Et c'est vrai qu'on arrive presque en novembre. Et ça a été ça a été du 7 sur 7. Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui change. C'est que, moi, en tout cas, en tant que réalisatrice, c'est vrai que j'ai accepté quelque part. Je voulais à tout prix que mon film puisse être vu et que cette fameuse Chantal Birman soit découverte, que le tabou du postpartum soit levé, etc. Et c'est vrai que du coup, j'ai aussi, il y a Instagram qui est arrivé parce que voilà, c'est un outil qui a beaucoup aidé le film avec les différentes communautés. Et c'est vrai que c'est un peu débordant parce que finalement, c'est un peu 7 sur 7. Puis, comme disait une copine à moi qui m'a fait beaucoup rire en se moquant de moi, elle m'a dit on ne naît pas mère, on le devient, mais on ne naît pas community manager, on le devient. Donc, je suis devenue à la fois, en même temps que réalisatrice, j'ai l'impression community manager, ce qui est un peu étonnant et un peu, ce qui est pas mon boulot, à vrai dire. Mais c'est tout ce qui est passionnel, finalement, c'est un peu comme ça, ça nous déborde. Je vois en tout cas que le film, et puis il faut dire que le film, on a une boîte de distribution qui est formidable, qui s'appelle Tandem, avec trois filles à la programmation qui se battent, Carla, Mirana et Margot. En attendant, il n'y a pas non plus des moyens comme un James Bond, bien évidemment, vous en doutez. Donc, nous, on travaille beaucoup de notre côté à ce que c'est que l'info circule. Et donc, plus on repartage nous-mêmes les informations qui sont repartagées, plus je crois que c'est une question d'algorithme, plus ça fonctionne aussi. Donc, il faut faire un peu attention à cette course-là. mais en même temps, c'est le moyen pour qu'il puisse exister, puisque voilà, aujourd'hui le documentaire, les salles, il est programmé donc dans 34 salles en France en première semaine. Il a gardé toutes ces salles, ce qui est un miracle. Mais wow. Avec les 450 films, voilà, qui étaient à la porte, c'était un enfer en fait. Le cinéma se porte à vrai dire pas très bien, même pas bien. Surtout les salles, les gens ont beaucoup de mal à revenir en salle. Donc les films qui sont choisis, même par les cinémas d'arrêt d'essai où on est programmé principalement, pour eux voilà, il y en a plein d'autres d'auteurs qui sortent. Moi c'est mon premier film, donc voilà, c'était aussi un vrai pari, presque un acte militant. Donc du coup ça a été beaucoup d'énergie pour leur montrer. Je sais qu'ils ont aussi vu les réseaux et que ça leur a donné envie en se disant bon, ok, il y a une vraie demande en fait, les gens ont envie de le voir. Et d'ailleurs les gens contactent eux-mêmes les cinémas pour organiser des séances, pour nous faire venir. Ça, je crois que c'est assez inédit et c'est juste extraordinaire, quoi, parce que les gens s'emparent du film et s'emparent du message, et je crois que ça leur donne de l'énergie. Donc c'était tout ce que je voulais, et ça, c'est juste extraordinaire.
Les gens étaient au rendez-vous, donc dans les salles, quand vous y étiez, vous, avec Chantal Birman aussi?
Ouais, alors bien sûr, ça a été crescendo. Ça n'a pas été, on n'a pas été plein dans toutes les séquences. On a été plein, au fur et à mesure. On a quand même bien démarré dans les avant-premières, justement déjà avec ce bouche à oreille qui était dû, notamment à Instagram, etc. Avant qu'il la presse, puisque la presse généraliste s'en est emparée, on a eu de la chance d'avoir à peu près presque tout, quoi. Mais au départ, la presse n'était pas sortie encore. Donc on a. Mais après, ça reste des chiffres qui sont quand même petits, parce que c'est 34 salles et que parfois il y a que, dans certaines salles, il y a qu'une séance jour. Donc là, pour être tout à fait transparente, en première semaine, on a fait un peu plus de 10 000 spectateurs, ce qui est bien, ce qui est très bien en vue du contexte. Mais il y a quelques années, on aurait fait 30. Voilà, ça c'est sûr. Mais par contre, ce qui est super, c'est que graduellement, le film, augmente tous les jours, ce qui est normalement l'inverse, en fait. C'est-à-dire que normalement, c'est programmé, puis après, la première semaine, ça démarre bien, et généralement, ça baisse. Nous, c'est plutôt l'inverse qu'on observe, donc ça c'est génial. Et pour reboucler sur la première question, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de m'occuper trop de mes enfants, et que j'ai une grande qui est rentrée en troisième cette année, une petite en CP, donc c'était des âges, on a déménagé aussi. En plus, donc les filles ont dû se réadapter et je suis très absente pour les épauler. Donc là, les vacances sont un peu sportives avec ma petite de 6 ans qui clairement a un peu pâti de cette absence. Paradoxalement, finalement, j'ai jamais été aussi mauvaise mère et si absente que depuis que je mets en lumière la maternité. Quoi.
Il va pas tarder à tomber là, le cocon.
Comment ça s'est passé
l'accouchement alors?
Ça s'est bien passé.
Alors voilà, je vous montre comment on sort un bout de sein.
Vous avez beaucoup d'amis ici?
Non.
Je vous mets amis. C'est très important.
Il faut que tu dormes un petit peu quand même, d'accord?
Vous avez la tétine, hein?
On peut aussi la mettre la nuit.
Vous pouvez faire ce que vous voulez. Une maman fait confiance à son enfant. Et plus on fait confiance à quelqu'un, plus il a de force. L'organisation de la santé est de plus en plus économique et de moins en moins dans un but de santé publique.
Jamais on avait le temps. J'avais l'impression d'aller me faire maltraiter. Ça n'arrêtait pas. Le flux tendu en salle de naissance, on sait ce que c'est, mais là, c'était le flux tendu tout le temps.
La péridurale, elle n'est pas là pour des problématiques de douleur, elle est là pour des problématiques de personnel.
L'existence de l'individu femme est écrasée.
Donc, en tant que sage-femme, accompagner des femmes et vouloir leur liberté, c'est forcément militer. C'est forcément ça.
L'idée de ce documentaire, elle arrive, vous êtes encore à la maison des maternelles.
Oui.
C'est là-bas que vous rencontrez justement la sage-femme Chantal Birman. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette rencontre et de ce qui fait que vous vous êtes dit, tiens, je vais faire un documentaire, il faut que je fasse ça maintenant?
Ouais, alors effectivement, je venais de rentrer à la maison des maternelles et c'est vrai que ma rédactrice à ce moment-là me dit, écoute, Aude appelle Chantal Birman, tu vas voir, c'est une grande dame, pour lui proposer de venir cette année sur le plateau. Tu demandes ce dont elle a envie de parler, parmi tous les sujets qu'il y a autour de la maternité dans la maison des maternelles. Et puis voilà, puis en fait, effectivement, en deux secondes, j'ai compris que j'avais affaire à, effectivement, au-delà d'une grande dame, à une icône planquée, finalement. Pour moi, j'avais l'impression que je venais de découvrir une femme qui avait des idées si brillantes, si intéressantes. J'avais l'impression que toute ma génération, et même celle d'avant et celle d'après, quelque part, était en attente de ce qu'elle était en train de me raconter, puisqu'elle mettait des mots d'une clarté, d'une brillance sur à la fois la maternité, qu'elle sortait justement de cette zone rose et bleue, et du côté finalement heureux, l'image d'Épinal est quand même très véhiculée jusque-là globalement. À la fois, elle avait une parole, une analyse, une expérience autour de ces questions de la grossesse, de l'accouchement et de la prénaissance, donc du postpartum, qui était d'une justesse extraordinaire. Et en plus, c'était une grande militante qui était par ailleurs quelqu'un qui, n'avait pas vraiment été révélée, puisque j'ai vite compris qu'elle avait modifié la loi Veil, etc., qu'elle avait fait passer notre possibilité d'avorter de 10 à 12 semaines, qu'elle avait amené l'idée de l'adultoréférent. Et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'une femme avec des idées, une intelligence, un parcours comme ça, n'est pas plus d'amplitude, en fait, ne soit pas sortie du cadre, finalement, de la maison des maternelles, du cadre elle avait écrit un livre, Au monde, ce qu'accoucher veut dire, que je conseille à tous vos auditeurs, qui est superbe, mais voilà, elle n'était pas connue réellement du grand public. Bon, alors ça, c'était le premier truc. Et puis ensuite, moi, évidemment, ayant été maman, quand j'ai été mère, j'ai découvert, la confusion des sentiments, et comme le dit très justement Léna Weisman, c'est-à-dire ce sublime qui côtoie l'aliénation, en fait, et qui c'est pas l'un après l'autre, c'est un peu les deux superposés, la maternité. Je me suis dit, mais comment ça se fait que on ne parle pas plus de ce moment-là? Comment ça se fait qu'on se prévient pas plus entre femmes? Comment ça se fait que c'est encore si tabou de se parler de cette confusion des sentiments qui suit la naissance d'un enfant? Et donc voilà, les deux, entre moi, le sentiment que j'avais, plus la rencontre de cette femme, effectivement, je me suis dit, voilà, il y a un vrai film à faire. Après, je l'ai su dans le 93, je me suis rendu compte que ce que moi j'avais vécu à titre personnel, toutes les femmes le partageaient, toute ethnie confondue, alors avec plus ou moins d'aisance, avec plus ou moins de drame, avec plus ou moins de joie. Et voilà, les curseurs sont différents selon les personnes, les origines, les classes sociales, etc. Mais que globalement, il y avait un sentiment de vertige et aussi d'abandon de la société dans ce moment-là, qui était vraiment partagé. Et donc voilà, je me suis dit qu'effectivement, il y avait un vrai film à faire. Et puis voilà, de cinéma, et pour différentes raisons.
Aude Pépin, la réalisatrice du documentaire À la vie sur la sage-femme Chantal Birman. Mesdames, autour de cette table, est-ce que un film autour de la maternité montrer, rendre public quelque chose de l'ordre de l'intime et qui a été longtemps caché, est-ce que cette idée vous semble intéressante et importante?
Bien sûr. Bien sûr. Plus on parlera de la maternité, plus on montrera d'autres styles d'accouchement que ceux qu'on voit à la télé ou au cinéma où elles perdent toutes les os et elles sont toutes allongées sur une table. Il faut ouvrir les consciences que il y a une période en fait où l'accouchement était hyper naturel, évidemment, jusqu'au début du XXe siècle quand même, hein. Et puis on est arrivé maintenant à une période où l'accouchement est hyper médicalisé. Et je pense que là, je sais pas si c'est le Covid ou d'un seul coup un changement. Et je pense qu'il va falloir ni aller plus d'un côté ou de l'autre, mais trouver un juste milieu et surtout permettre aux femmes de se poser des questions sur ce qu'elles ont envie de vivre, comment elles veulent le vivre et qu'on leur propose des possibilités. Parce que si c'est toujours la même chose, si c'est toujours... C'est l'hypermédicalisation ou l'hypermédicalisation. Mmh. Ok, mais moi, je voudrais autre chose. Ah ben, il n'y a pas. Donc ça, il n'y a pas parce que il y en a plein de sages-femmes qui voudraient travailler comme ça, parce qu'en fait, nous sommes à la fois des techniciennes, mais à la fois des accompagnatrices. On sait que donner la vie, c'est pas rien. Donc, et ça, pour ça, il nous faut les moyens, il nous faut un nombre de sages-femmes en salle d'accouchement. Et ça, c'est une volonté politique.
Oui, complètement. Je te rejoins, Françoise. Pour moi, c'est évident qu'il faut montrer au monde ce qu'est la maternité et ce qu'est le postpartum, parce que les enjeux sont énormes. Pour moi, je le vois au quotidien, Et je te rejoins dans le sens où il y a quelque chose qui a changé depuis le Covid. Et j'ai aussi une petite inquiétude aussi où je vois de plus en plus de femmes qui font le choix de reprendre leur pouvoir, mais qui se retrouvent dans la détresse de ne pas avoir d'accompagnante.
Tout à fait.
D'accompagnante dans leur projet. Notamment je parle notamment de l'accouchement à domicile. Qui montre un besoin chez les femmes de plus en plus présent et qui se retrouvent dans l'impasse parce qu'elles n'ont pas de sage-femme spécialisée en accouchement à domicile, faute d'assurance. Et clairement, c'est une volonté politique. Je te rejoins, Françoise, là-dessus. Et puis, les enjeux sont énormes parce qu'on démarre la vie de cette manière-là. Et il n'y a pas que le bébé qui démarre sa vie quand il naît. Il y a aussi la vie de parent, la vie de mère et la vie de père. Et les enjeux sont énormes pour la santé de la famille, de la mère, du père et du bébé.
Chantal Birman, elle a commencé sa carrière en hospitalière, comme vous, Sophie et Aurélie. Est-ce que vous êtes du même avis que Françoise et Marine? Ce genre de film, il faut que ça existe pour que les gens prennent conscience aussi de ce qui se passe?
Ça, c'est évident. Il y a tellement de choses qui m'arrivent dans la tête et je voudrais essayer de le classer pour le dire parce que c'est terrible. Tout s'entremêle, en fait. Je ne sais pas par quel bout commencer pour le dire, mais les sages-femmes hospitalières, les sages-femmes en général, on nous a dépossédés de ce qui faisait l'essence de notre profession au démarrage. On est reconnu médical depuis 1800 avec Bonaparte et on est en 2021 et on doit se battre pour ça. On nous a rajouté une année d'études, notre cinquième année en 2004 pour nous dire vous serez comme ça médical. On l'est toujours pas. Ils nous parlent d'une sixième année et en fait on parle peut-être pas simplement de la base, c'est-à-dire du nombre de sages-femmes et de l'humain et de la présence qu'on peut avoir auprès de tout ça, des femmes, des couples, des bébés, qui va faire cette force. Je pense que la crise Covid peut-être a tout précipité, mais c'est vrai que ça monte en puissance depuis plusieurs années. Et on le voit avec des sages-femmes qui changent de voie, qui changent de métier, qui changent de façon de travailler. Et moi, pour être sage-femme hospitalière, en fait, j'ai peur. J'ai peur pour l'avenir et j'ai peur pour mon métier. J'ai peur que justement les gens me fassent disparaître simplement, alors qu'on se rejoint tous autour d'ici. Enfin, c'est la base. Je ne sais pas si j'étais très claire, mais...
Oui, après, l'importance de cet accompagnement des sages-femmes, que ce soit tout au long de la vie des femmes, c'est primordial et c'est quelque chose qui est nécessaire depuis l'éclatement des familles. Avant, les femmes accouchaient, elles étaient toujours entourées. Il y avait une structure familiale qui faisait que les pères avaient une autre place aussi, peut-être, mais il y avait une filiation et un accompagnement, un entourage. Qui est encore présent dans certaines cultures dans le monde et qui font que tout le monde soutient et porte la femme depuis sa puberté, l'accompagnement, la grossesse, le postpartum et la structure d'une famille. Et notre rôle maintenant depuis l'éclatement des familles, c'est de pouvoir accompagner les femmes, les familles, les parents. Et du coup, c'est vrai que la préparation à la naissance a été aussi mise en place pour apporter ce soutien-là. Et tous les parents, tous les futurs parents devraient voir ces films pour savoir prendre conscience de ce que ça représente, des chamboulements qui vont s'opérer et des aides qu'on peut leur apporter. Et c'est toute l'essence de notre métier.
On va évoquer un peu plus largement dans quelques minutes le postpartum et la dépression postpartum qui arrive souvent avec. Dans la bande-annonce du film, on en a entendu un petit extrait entre deux réponses de Aude Pépin. J'ai coupé un morceau, mais Chantal Birman, on l'entend dire « Entre la vie et la mort, les femmes choisissent toujours la liberté ». Elle prononce cette phrase quand elle parle des interruptions volontaires de grossesse. Ça, c'est quelque chose aussi que vous êtes amenée à faire, vous, en tant que sage-femme. En fait, la palette de la sage-femme est phénoménale. Vous avez un nombre d'actes considérable au quotidien.
C'est tout à fait ça, et à la fois, c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier-là. On est présente tout au long de la vie des femmes. Et quand on fait ces grèves et qu'on hurle, on vous a fait naître, il faut nous reconnaître, c'est que je crois que c'est la première fois où il faut... Où moi, je prends conscience qu'il faut que j'aille expliquer ce que je fais comme travail. Et ça me désespère un peu. On n'a jamais appris à se vendre, les sages-femmes, on ne sait pas. Déjà, on n'est pas nombreuses.
23 000, on l'entendait dans le petit
voilà,
reportage.
Voilà, 23 000.
Pour toute la France.
Pour toute la France. Comme je le disais, quand on fait grève, il y en a 4 ou 5 000 qui montent à Paris. Mais franchement, on était très, très fiers parce qu'en en proportion, c'est énorme. Et on n'est pas très doué pour se vendre, pour les réseaux sociaux. Après, comme on disait tout à l'heure, la publicité, on n'y a pas droit et on n'a pas à en faire normalement, je crois pas. Mais si on revendique aussi de la part des politiques, des campagnes justement d'information au public, c'est pour ça. C'est des grandes affiches pour dire la sage-femme peut aussi faire le suivi gynéco. La sage-femme est là à tel et tel moment de votre vie et... je crois qu'on aura fait un grand pas quand on en sera là.
Oui, ce que je voulais rajouter, c'est que moi, dans mon quotidien, je vois que les femmes sont perdues, savent pas ce que fait une sage-femme, mais je dois voir qui, comment, pourquoi. Alors que finalement, il y a plein d'informations, plein de documents qu'elles reçoivent, etc. Mais c'est pas toujours très clair. Et du coup, vous faites ça, vous? Mais je savais pas. Donc, de nos jours, 2021, elles ne savent pas ce que fait une sage-femme. Elles sont encore quand même beaucoup centrées sur l'accouchement. Et du coup, on se retrouve avec des femmes qui n'ont vu personne pendant toute leur grossesse et qu'on va découvrir en post-natal. Alors qu'on parle, donc ça c'est typiquement français, on parle de accompagnement, attention, prévention, oulala, entretien du quatrième mois, il faut faire attention, il faut dépister, on les voit pas au quatrième mois, si on les voit au huitième mois, on est content, ou sinon on les voit pas et on va les voir pour une première fois en post-natal. Là, ils veulent mettre aussi un entretien post-natal, je trouve ça très bien, mais en fait, tout est délité. C'est pas bien organisé, où il faudrait, je sais pas, qu'il y ait dès le début, comme fait par exemple certains pays du Nord, vous êtes enceinte, vous allez voir une sage-femme. Et après, on voit, et si vous êtes dans une grossesse physiologique, vous allez être suivi par une sage-femme, je vais me faire démonter par les gynécos, s'il y a une pathologie, bien sûr que le but, c'est pas de travailler contre qui que ce soit, c'est de travailler ensemble, mais on aimerait bien, moi, le centre de mon travail et le centre de mon but, pourquoi je suis sage-femme, c'est pour être avec, pour accompagner les femmes, et dans le mieux possible, et c'est pas forcément fait comme ça. Donc moi je dis c'est la femme au centre du soin, la femme et le bébé bien et le couple bien sûr. Mais c'est ça qui doit être au centre du soin. Et nous en France on rajoute des choses tout ça, puis en fait rien n'est vraiment bien organisé, concrétisé.
Donc il faut améliorer, si je vous suis, aussi la lisibilité de ce métier de sage-femme.
Faites vos valises, restez sur MDM.